Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Les pédagogies alternatives, c'est comme ça qu'on a appelé cette émission pour mettre en avant toutes les autres façons d'apprendre à l'école, toutes les nouvelles façons de repenser l'école aussi. Et nous allons démarrer cette émission avec les tout-petits, direction la région parisienne, avec Marianne, directrice de l'école Turbulle. Bonsoir Marianne. Alors je le disais, vous, ce sont les tout-petits, les 2-6 ans, et dans votre école, on a mis en place la méthode Montessori. Alors s'il y a beaucoup de gens qui connaissent le nom, on ne sait pas exactement ce que c'est forcément la méthode Montessori.
Eh bien, c'est une méthode basée sur l'autonomie, essentiellement l'autonomie de l'enfant et l'intelligence de la main, c'est-à-dire qu'on met à la disposition des enfants un matériel, des choses à faire sur des petits plateaux, et l'enfant, on leur présente le travail, et les enfants vont se diriger vers différents ateliers, et puis faire leur, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon montessorien, du travail individuel et travailler. Et donc, c'est énorme, c'est beaucoup basé sur l'autonomie des enfants et l'intelligence de la main.
Et on voit que ça intéresse de plus en plus de gens. Il y a de plus en plus d'écoles, c'est vrai, de plus en plus de parents qui s'y intéressent aussi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on a 30 ans d'existence sur Montreuil. Le succès ne s'est jamais démenti, mais c'est vrai que depuis quelques années, c'est encore plus frappant.
Et pour les tout petits, ça change quoi pour eux dans les méthodes d'apprentissage?
Ce qui change beaucoup, c'est que d'abord les enfants sont en âge mélangé, donc les tout petits de 2 à 3 ans. C'est une petite classe passerelle avant d'aller à l'école. Ça correspond à une grande section de crèche. Donc eux, ils sont entre enfants de 2 à 3 ans, sachant que un petit enfant qui arrive à 2 ans et qui sait pas parler, et un enfant de 3 ans qui a déjà accès au langage et qui a retiré ses couches, il y a vraiment un écart d'âge.
Ouais, c'est énorme.
Extrêmement énorme. Donc eux, ils sont dans la même pièce. Il y a deux pièces. Et donc, voilà, eux, ils sont ensemble. Et les autres, ils sont avec des enfants entre 3 et 6 ans. Et donc, c'est vrai que le fait d'être en groupe d'âge mélangé et de faire ce qu'ils veulent, en fait, chacun fait ce qu'il veut.
C'est pas imposé selon les âges, contrairement aux écoles classiques, on va dire.
Voilà. Donc, ils sont extrêmement stimulés par les plus grands. C'est-à-dire qu'un petit de 3 ans va regarder un grand qui va faire des mathématiques, qui va prendre son travail de grammaire, et puis il va apprendre parfois, sans que nous on ait rien fait, à lire au contact des grands en suivant les grands travailler.
Ouais. C'est
rigolo,
ça. Et
puis il y a des grands qui ont des développements plus lents et qui vont pas être stigmatisés. Parce qu'ils vont moins vite, et ça permet vraiment une grande entraide et une jolie ambiance, des jolis moments entre les enfants.
Mais la question que je me pose, Marianne, c'est que tout ce que vous leur apprenez à l'école, forcément il faut aussi le calquer à la maison. On peut pas se dire que ça on va le faire à l'école, mais qu'une fois à la maison ça va être n'importe quoi. Enfin, ce côté autonomie, ce côté rythme des enfants, on l'adapte aussi avec les parents, on en parle pour pouvoir l'adapter à la maison après.
Bah oui, on en parle. C'est vrai qu'après, chacun son chemin par rapport à son enfant. Et puis que élever un enfant, c'est une interaction entre l'enfant et ses parents. Et puis c'est aussi parce qu'un enfant va être plus autonome, va avoir le désir de vider la vaisselle, de participer à l'élaboration du repas. Ça va être valorisant pour les parents d'avoir son enfant qui grandit. Et puis c'est des interactions. C'est aussi mettre l'enfant au cœur de la vie de famille. Mmh. Donc généralement, c'est des choses qui passent bien. Ils adorent passer la serpillière quand ils sont autonomes pour tout, c'est-à-dire qu'ils ont des petits balais, des petites serpillières. Et généralement, c'est des choses que les parents apprécient assez.
Ah bah oui, c'est normal, voilà. Ça. Et alors, on parle souvent de la méthode Montessori pour les tout-petits. Après, ça continue pour l'école primaire, pour le collège, pour le lycée. Est-ce que ça peut s'adapter pour les plus grands après? Ou est-ce que finalement, c'est une fois qu'on l'a acquis, on grandit avec cette autonomie?
Moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, quand on a été dans des lieux comme ça jusqu'à 6 ans, et du retour que j'ai des enfants qui ont maintenant 30 ans passés, j'ai effectivement le sentiment que cette autonomie, elle reste ancrée, elle reste inscrite.
Mais le choc n'est pas dur parfois de passer d'une école comme la vôtre et après, à partir de 6 ans, de revenir dans un schéma un peu plus classique ?
Non.
Non.
Ça se passe très bien. Les enfants sont très autonomes justement dans les classes. Ils participent. Enfin, ils vont vraiment aider les copains pour qui c'est compliqué. Il y a de très très bons retours des écoles de quartier dans lesquelles les enfants vont. Il y a aussi des écoles primaires où on a quelques enfants de Turbulle qui continuent en primaire Montessori. Et puis après, il y a des collèges, mais il y en a très peu sur la région parisienne, mais je crois que sur même en France. Mais j'ai entendu dire qu'il y a effectivement des choses qui allaient se monter.
Ah bon, ben faudra suivre ça. Alors merci beaucoup Marianne d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu, et on refera, je pense, d'ici la fin de la saison une spéciale Montessori comme on l'avait fait l'an passé pour une émission dont on se dit tout. Il y a tellement de choses à dire que c'est vraiment passionnant de vous écouter. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous.
À vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
Jusqu'à 22h, on est à l'école sur France Bleu, mais l'autre école. L'école où on enseigne différemment, où on envisage l'autorité différemment, la notation différemment, les pédagogies alternatives. C'est le sujet dont se dit tout et nous partons maintenant en Bretagne chez Alexandre. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Alors vous vous préparez pour l'ouverture à la rentrée prochaine d'une école démocratique. Ça veut dire que l'école d'aujourd'hui, l'école traditionnelle, elle n'est pas démocratique ?
Ça veut dire qu'on envisage une approche totalement différente, tant au niveau des apprentissages qu'au niveau de la gestion de l'école, qui est plutôt sous forme d'une co-gestion avec les élèves vraiment inclus à part égale dans la vie de l'école.
Alors ça veut dire que ça change quoi concrètement ? Pour les gens qui connaissent l'école dite classique, traditionnelle, l'école démocratique, qu'est-ce qu'on va y trouver qu'on ne trouve pas ailleurs ?
Eh ben, on va y trouver tout ce que les membres de l'école vont avoir envie d'y mettre en termes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite dans les choix des matières et des activités qui peuvent être trouvées et proposées dans l'école. Et également en termes de fonctionnement interne de l'école. C'est-à-dire qu'il y a deux organes qui régissent la vie de l'école, qui sont le conseil d'école et le conseil de justice. Donc le conseil d'école, il se réunit une fois par semaine et voilà, tout sous forme de...
Là on parle de l'éducation vraiment, de la façon d'apprendre.
On parle de la vie de l'école. Collectif, ouais. Et de tous les choix qui peuvent être faits dans l'école.
D'accord.
Donc le conseil d'école, il y a un ordre du jour qui est posé avant chaque conseil d'école et chacun... enfant, adulte, peut poser ses envies. Alors ça peut être l'attribution de budget pour une activité, ça peut être proposer une nouvelle activité, ça peut être vouloir changer un point du règlement intérieur. Et donc voilà, toutes ces propositions sont libres et ouvertes pour le conseil d'école, elles sont discutées par tout le groupe et elles sont amenées au vote.
D'accord. Alors du coup, comment ça se passe au niveau des programmes proprement dit ? Puisque vous dites on peut changer, on peut utiliser telle ou telle matière plus qu'une autre. Ça veut dire que vous ne suivez pas les programmes de l'éducation nationale ?
Exactement. On suit pas le programme de l'éducation nationale. En termes de suivi, la seule obligation qu'on ait dans le cadre français... c'est de pouvoir que les enfants à 16 ans aient acquis le socle commun de compétences.
D'accord. Oui.
Voilà. Donc qui n'a pas grand chose à voir au final avec le programme de l'éducation nationale, puisque on parle bien de compétences et pas forcément de connaissances.
Et comment ils regardent ça ? Comment ils voient ça, l'éducation nationale, quand on veut ouvrir une école autre, on va dire, que celle qu'ils nous proposent habituellement ?
Eh ben, au final, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas trop de problématiques. Je pense que ça peut questionner, ça peut éventuellement peut-être déranger certains membres de l'éducation nationale. malgré tout, on est quand même dans le même objectif et dans le même optique, qui est de que les enfants soient épanouis, qu'ils puissent trouver leur voie et qu'ils soient à l'aise par la suite dans le monde adulte. Mmh. Donc voilà, c'est l'approche qui est différente. Après, en tout cas de notre côté, on ne pense pas qu'il y en ait un mieux que l'autre, mais que chacun permet de pouvoir proposer des alternatives et des avoir des propositions différentes.
Et c'est pas par hasard qu'on a choisi ce thème hein, ce soir sur France Bleu, parce qu'on en entend de plus en plus parler de pédagogie alternative. Alors il y a l'école démocratique, il y en a plein d'autres aussi. Pourquoi il y en a autant de différentes? Pourquoi on se réunirait pas autour d'un seul et même projet finalement, puisque ça se rejoint un petit peu?
Alors oui, l'objectif est commun. Après, les moyens d'y arriver sont variés. Et je pense que s'il y avait encore une cinquantaine de formes de pédagogie différentes, ce serait pas trop. Puisque, en tout cas, pour notre part, dans les écoles démocratiques, on part du principe et on s'appuie sur des recherches en neurosciences qui démontrent que il y a plusieurs formes d'intelligence, il y a plusieurs formes de, il y a plusieurs d'approche dans les apprentissages. Chacun a un mode d'apprentissage qui lui correspond.
Il faudrait donc presque une école pour chaque enfant, puisque chaque enfant est unique.
Ben ça, voilà, ça pourrait être ça. C'est pour ça que dans les écoles démocratiques, il n'y a pas de pédagogie et chaque enfant va vraiment trouver les outils qui lui correspondent.
Comment les parents vous ont trouvé? Comment ça se monte une école? Genre on lance une bouteille à la mer, on se dit voilà, j'ai envie de monter une école démocratique et puis tous ceux qui sont intéressés par le projet vous rejoignent?
Ça a été un petit peu ça. C'est vrai que en Bretagne, voilà, du moins par chez nous, il y avait beaucoup de demandes. Il y a un certain nombre d'écoles alternatives de façon globale qui ont essayé de se monter dans les 20 années passées. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de demandes, donc on s'est regroupé autour du projet entre parents et certains professionnels et après on a lancé des réunions publiques, des réunions d'information et petit à petit voilà, on a des personnes qui se sont greffées au projet, des familles qui nous suivent aujourd'hui et on a voilà, maintenant grâce à ces réunions publiques, aux réseaux sociaux, à des émissions de radio, des journaux, des appels quasiment quotidiens.
Ah oui, quand même. Donc là la rentrée c'est bon, c'est septembre.
La rentrée, c'est septembre. Il nous reste un point non négligeable à solutionner, c'est l'histoire du local. C'est-à-dire qu'on a une piste pour un local à Pleuhermel, mais on a un problème technique au niveau de l'urbanisme qu'on est en train d'essayer de régler.
D'accord. Donc là, ça va être le chantier de l'été un peu pour vous. On prendra de vos nouvelles, Alexandre, à la rentrée, savoir comment ça s'est passé, cette première rentrée pour vous, et puis savoir un petit peu comment ça se passe, si vous êtes OK.
Eh ben avec plaisir.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu. Et on vous souhaite de bons derniers préparatifs avant la prochaine rentrée de cette école démocratique donc en Bretagne. À bientôt, Alexandre.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.
Partagez vos bons conseils. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Les pédagogies alternatives, c'est le sujet dont se dit tout jusqu'à 22h, de Montessori à Freinet, en passant par Steiner, les collèges sans notes, les lycées autogérés et certainement plein d'autres initiatives que j'ignore encore, mais c'est à vous de nous en parler. Après Montessori, après l'école démocratique, on va parler de la méthode Steiner en compagnie de François. Bonsoir François.
Bonsoir.
Alors vous, c'est le papa là qui parle, hein, papa d'une grande fille de 12 ans aujourd'hui.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de mettre votre enfant dans une école dite « différente », entre guillemets ?
En fait, ma fille était dans une école traditionnelle à la base. Et tous les soirs, elle revenait, elle était vraiment pas bien. Et du coup, il a fallu trouver une autre école. Et puis, on a tenté ces écoles-là, cette école Steiner.
Et comment vous en aviez entendu parler ?
J'étais allé dans une porte ouverte, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'était vraiment par curiosité, je pense. Et puis, il y avait un prix assez élevé. Donc, au début, j'étais pas trop pour. Après, chacun ses priorités, et puis j'ai pris la décision avec ma compagne de mettre ma fille là-bas.
Et vous avez vu le changement, rapidement?
Ah ouais, exactement, tout à fait, ouais.
C'est-à-dire?
Ils font beaucoup de choses manuelles, donc ils apprennent vraiment bien sûr, ils ont des cours tout à fait normaux aussi, hein, mais ils apprennent pas mal de choses manuelles, du tricotage, ils font du potager, ils ont des cours de potager, et moi, je trouve que c'était pas mal, quoi, parce que, Du coup, c'est quand même une certaine base. Et puis, il y a beaucoup de politesse là-bas comparé aux autres écoles aussi, quoi.
Et du coup, ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur cette méthode Steiner, de vous documenter? Est-ce qu'on en parle aussi beaucoup entre parents d'élèves?
Franchement, je ne suis pas quelqu'un de très engagé dans cette école parce que j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de boulot et donc là-dessus, non, je suis pas trop. je suis pas trop mis dedans.
Mais vous voyez les résultats, en tout cas, c'est bien pour votre fille.
Voilà, moi, c'est le principal. C'est bien comme ça, donc voilà, c'est le principal.
Et ça fait combien de temps? Elle a 12 ans aujourd'hui. Elle a commencé à quel âge?
Elle a commencé à avoir 7 ans.
Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que là, version collège, ça existe encore.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ils vont jusqu'au bac et le bac, ils le font avec une autre école en alternative sur Avignon.
Est-ce que c'est facile d'expliquer aux autres, je pense à votre famille, aux amis aussi, que vous êtes parti sur une autre méthode d'enseignement? Est-ce qu'ils comprennent ou est-ce que parfois ils disent oh là là, n'importe quoi?
Non, ils comprennent pas tous. Il y en a qui comprennent tout à fait, hein, parce que enfin, voilà. Mais non, justement, un ami qui a son fils qui est un peu hyperactif, tout ça. Donc je lui dis essaye cette école. Et bon, chaque fois, il me répond, oui, mais ça coûte trop cher. Alors, je dis, après, bon, mais il y en a qui achètent des écrans plats toutes les semaines, il y en a qui mettent leurs enfants dans des écoles, des écoles comme ça, quoi. Donc,
Mais en tout cas, votre fille, elle est mieux, elle aime l'école aujourd'hui?
Ah, ouais, carrément, bien sûr, aucun souci, quoi. Aucun souci, elle est éveillée avec tout le monde. Moi, je bosse, j'ai une ferme pédagogique itinérante, donc elle vient souvent travailler avec moi. Elle est super à l'aise avec les gens, c'est impressionnant, quoi.
Bah, c'est bien, comme quoi ça marche, hein, ces autres façons d'enseigner, ces autres méthodes.
Ouais, ça marche très bien, hein, bien sûr. Il faut juste avoir confiance à la pédagogie ou à l'école. Et puis, à partir de là, franchement, il y a tout qui marche, quoi.
L'école Steiner, donc pour vous, cette pédagogie alternative. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous sur France Bleu. Et bonne fin de soirée.
Ok, pareillement, au revoir.
Merci, au revoir.
Partagez vos bons conseils. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
Jusqu'à 22h, on parle des pédagogies alternatives de la maternelle au lycée, d'autres façons d'envisager l'école, la façon d'apprendre, la façon d'enseigner. Et je vous emmène justement au lycée, un lycée expérimental, c'est à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique avec Julie. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Vous faites partie de l'équipe éducative et je parle bien d'équipe parce que chez vous, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de proviseur.
Effectivement, il y a 19 membres de l'équipe éducative et 180 élèves.
Et tout le monde fait partie de cette organisation, on va le dire comme ça.
Voilà, c'est un système de co-gestion et tout le monde gère, les deux collectivités gèrent ensemble le lycée à égalité de droits.
Alors vous faites quoi par exemple, Julie?
Alors moi je suis membre de l'équipe éducative, j'étais cooptée pour le français, mais je fais bien plus que ça. Là actuellement je suis en gestion, c'est-à-dire qu'on gère le lycée avec un groupe d'élèves pendant 15 jours.
Ah oui, vous faites plus de français alors?
Non.
Non. Comment on arrive dans un lycée comme celui-ci? C'est pas un lycée comme les autres, vraiment. Comment on se dit, tiens, j'ai envie d'enseigner dans ce lycée?
Ah là, je pense qu'il y a autant de réponses qu'à de membres de l'équipe, mais pour moi, c'était plutôt des questions quant au système traditionnel qui me convenait plus vraiment en tant qu'enseignante, dans lequel je me retrouvais pas, qui faisait pas vraiment sens, et avec l'envie d'aller voir ailleurs ce qui se passait, quoi.
Alors, on a vu que sur l'organisation même du lycée, c'est différent. Sur l'enseignement, c'est différent aussi?
Oui, en fait, les élèves sont actifs et ils choisissent leur parcours de formation ici. Donc, tout est décidé avec les élèves et construit conjointement. Donc, on travaille par atelier, une quinzaine, un groupe et un sujet. Et c'est avec eux qu'on construit les enseignements. Donc, c'est eux qui décident. Enfin, on décide ensemble de ce qu'on travaille et de comment on le travaille.
Mais alors, expérimental, ça veut dire que parfois, on essaye, mais que ça ne marche pas toujours?
Ça veut dire ça aussi. Ouais. Ça veut dire qu'on peut essayer, se permettre d'essayer, et puis ça ne marche pas parfois.
Est-ce que vous suivez un programme qui est défini par l'éducation nationale ou pas du tout? Est-ce qu'on en sort vraiment de ce schéma-là?
Ah, c'est une grande question, on a du mal à en sortir. Nous, on se pose les questions ensemble de qu'est-ce qui est intéressant de découvrir, d'apprendre, de faire ensemble. Et l'équipe éducative est garante que dans les ateliers et les activités proposées apparaissent des points qui correspondent au programme. Moi, en l'occurrence, je vais être garante avec ma collègue de lettres que les élèves aient vu les points au programme pour le bac de français. Si
mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a quand même le bac au final.
Oui, mais
arrive.
C'est pas pour les élèves qu'ils choisissent. Qui choisissent cette formation peuvent passer le bac. Donc, on s'arrangera pour qu'il y ait des ateliers, des activités qui recoupent les points de programme. Et on travaille beaucoup en inter- et transdisciplinaire également.
Oui.
Donc il arrive que lors d'un atelier ou d'une activité diverse et variée, en fait, on nourrisse les points du programme.
Est-ce que les élèves, vous les trouvez changés entre leur arrivée en sixième et la fin du cursus en... J'ai rappelé, non, pas sixième, c'est seconde jusqu'à la terminale.
Alors en fait, il n'y a pas de classe.
Donc, ah bah oui, donc
ils
déjà...
Ils ne s'inscrivent pas, en fait, ils ont la liberté de choisir leur parcours de formation, ils s'inscrivent pas dans des classes. Et la question est très compliquée, c'est assez variable, mais je dirais oui, dans l'ensemble, oui. Les membres de l'équipe comme les élèves d'ailleurs.
Ah oui, vous aussi?
Bah oui.
Vous pourriez pas retourner dans un lycée classique?
Je sais pas. On verra si un jour la question se pose.
Vous en parlez avec des collègues qui, eux, sont restés dans le système, on va dire, oui, classique de l'éducation nationale? Vous les recroisez, vos copains de promo, par exemple?
Oui, bon, on en parle, mais c'est pas les personnes avec lesquelles c'est le plus évident de discuter du lycée expérimental et des pédagogies alternatives. C'est parfois les gens en dehors du système éducatif qui sont le plus réceptifs ou qui acceptent d'en discuter plus facilement, je pense.
Mmh, mais vos collègues, vos confrères, non, ils n'en parlent pas.
Bah, c'est compliqué.
Oui.
Parce que je pense que ça les renvoie aussi au système qu'on appelle traditionnel ici, dans lequel ils sont.
Oui, ils se disent non, c'est pas possible, mais en même temps, ils aimeraient bien y être aussi.
Peut-être, je ne sais pas. Je ne voudrais pas m'engager pour eux.
Julie, restez avec nous parce qu'on a justement deux élèves de votre lycée qui sont également avec nous ce soir. Bonsoir, Jonas.
Bonsoir.
Pour quelle raison, toi, tu as décidé de poursuivre ta scolarité au lycée expérimental?
J'étais dans un lycée qui était plus ou moins élitiste, non, voire même très élitiste, et moi j'étais très mauvais. Du coup, on m'a gentiment dit de partir, et donc du coup j'étais très fâché contre le système traditionnel. Du coup j'ai cherché une alternative, et j'ai trouvé ça.
On t'a demandé de partir?
On m'a pas exactement demandé de partir, mais on m'a légèrement fait comprendre que je ferais tâche sur les statistiques.
Waouh, c'est dur ça, non? T'avais quel âge à l'époque?
Bon, j'avais 15-16 ans.
15-16 ans, ouais. Et là, ça t'a redonné le goût de l'école?
Disons que, ouais, plus ou moins, je suis content d'y aller, ouais.
Qu'est-ce qui change, toi qui as connu les deux, le système classique et maintenant le lycée expérimental?
C'est surtout genre le rapport qu'il y a en fait entre les meufs et les élèves, en fait, parce que on n'est plus à se vouvoyer, on n'est plus à se vouvoyer, et puis ça va pas à sens unique quand on transmet des choses. Et puis surtout, t'as l'impression d'être écouté par des gens qui, normalement, sont plutôt là pour te dire que t'as tort.
Mmh. T'es en quelle classe aujourd'hui, Jonas?
Je suis en première.
Première. Ouais. On parlait tout à l'heure avec la prof, mais c'est pas vraiment ta prof. Julie fait partie de l'équipe, mais on parlait avec Julie du bac. Est-ce que c'est quelque chose qui, est important pour toi, comme on l'entend certains élèves qui sont en première et qui disent « Ah, je pense qu'au bac. » Ou est-ce que quand on est dans un lycée comme le tien, justement, on pense à autre chose qu'à ça?
Ça reste un établissement d'enseignement général qui propose les trois filières générales et ça reste un lycée aussi, donc forcément le projet bac, c'est quelque chose d'assez présent. Mais même si certains ont d'autres projets, pour ma part, ouais, j'y pense.
Tu sais déjà ce que tu as envie de faire après?
Pas du tout.
Non. Et ça, on en parle de ce doute parfois avec les profs, on peut en parler, de dire je sais pas ce que je vais faire et on se retrouve pas face à un mur?
On peut toujours en parler.
Ouais.
On peut toujours en parler. Et puis, y a beaucoup de gens, pas qu'avec des profs, tout le monde pourra vous donner des conseils.
Merci Jonas d'avoir donné un petit peu ton avis sur ce lycée. Je crois qu'il y a Anna qui est également à tes côtés et qui voulait témoigner de ce lycée pas comme les autres. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
Alors toi, tu es en quelle classe?
Moi je suis en terminale ES.
Terminale ES. Et toi, tu as fait le choix comment de partir sur ce lycée expérimental?
J'étais dans un lycée traditionnel et je connaissais déjà... le lycée expérimental parce que j'avais des copains, enfin des voisins qui y avaient été. Et je commençais un peu à me faire chier dans le lycée. Et depuis longtemps, le système classique on apprend sagement sur notre chaise et on reste passif toute la journée,
ça
n'allait
pas.
Je trouvais ça bizarre qu'on ne fasse pas autrement. Et du coup, je me suis dit, allons essayer... autre chose, vu qu'il y a d'autres trucs qui existent, allons tenter.
Mmh. Voilà. Et ça change? Tu restes pas assise pendant des heures à écouter un prof? Qu'est-ce qui change? Donne-nous un exemple de cours où vraiment ça n'a rien à voir.
Un exemple de cours qui n'a rien à voir. Déjà, on peut aller faire des recherches quand on en a envie. Je m'embrouille.
Non, mais dis-nous, prends le temps, il n'y a pas de souci.
Je pense que c'est nécessaire d'aller faire une recherche sur tel ou tel sujet, en SES, par exemple, pour aller étudier la crise des subprimes, c'est je peux dire que je pense cela nécessaire et aller décider de faire mes recherches. Et,
tu peux quitter le cours et aller faire des recherches.
Bon, après, on en discute, bien sûr, mais ouais. Je veux dire, c'est pas le prof qui va te dire Anna, tu vas faire ça, machin, tu vas faire ça, et on obéit.
T'es autonome un peu, tu fais comme voilà. Tu le sens.
Oui, mais c'est pas quand même la jungle où chacun
fait ce qu'il veut, quoi. Non, mais si tu penses que c'est bien à tel moment, tu peux en parler en tout cas, tu peux donner ton avis. Au niveau des notes, ça donne quoi? Est-ce que vous êtes noté comme avant ou est-ce qu'on fait pas tout ça non plus?
Il n'y a pas de notes. Et donc c'est à chaque élève de créer son bulletin, s'il estime que c'est nécessaire. Moi en l'occurrence je l'ai fait, mais sans notes. Du coup j'ai fait comme un peu un bulletin scolaire, mais...
avec des appréciations.
Ouais, et c'est moi qui m'auto-évaluais en mettant tout ce que j'avais fait dans l'année et en pensant où est-ce que j'avais encore à travailler, ce que j'avais acquis, pas acquis. Et après, j'ai été en discuter avec l'EME des Mac tiers et qui me disait, moi, je pense que t'en es à peu près là, tout ça. Et on discutait de ce que j'avais mis et de ce qu'ils pensaient et voilà.
Ah bah attends, je continue. Excuse-moi Anna, on coupera, hein, t'inquiète pas. Moi je voulais savoir, avec tes copains d'avant, de ton lycée d'avant, t'en parles un petit peu de comment tu étudies aujourd'hui ?
Un peu, mais je pense que pour eux c'est vachement abstrait. Ils restent vachement dans les entre guillemets clichés du lycée, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, si tu veux pas travailler, tu travailles pas. Mmh. Alors qu'en réalité c'est pas ça. Sauf que c'est comme si j'essayais de comprendre le lycée expérimental, mais en restant dans le schéma classique du lycée.
Ça ne peut pas marcher.
Et ça ne marche pas.
Bah ouais. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette de pouvoir en parler avec toi, avec Jonas, avec Julie également. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu. Et puis, on te souhaite une très belle fin d'année scolaire, Anna.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
L'école autrement, c'est le sujet dont se dit tout jusqu'à 22h et nous sommes maintenant au Vésiné en compagnie de Maxime, directeur de l'école primaire Saint-Charles. Bonsoir Maxime.
Bonsoir Vanessa.
Alors vous, votre école est particulière, on va y entrer en détail, mais déjà on n'est pas nombreux par classe, ça c'est important.
Ouais, tout à fait, du CPE au CM2 à l'école Saint-Charles, on est entre 10 et 15 élèves maximum.
10 et 15, ça permet de prendre plus de temps avec chacun, d'enseigner et d'apprendre différemment.
Tout à fait. Tout le parcours de l'enfant est individualisé. Il n'y a pas un emploi du temps qui se ressemble. Et ce travail de qualité ne peut se faire que parce que les effectifs sont si bas.
Ça veut dire aussi qu'on a des professeurs des écoles différents aussi. Ils ont un profil différent.
Alors, ils viennent tous de l'éducation nationale. Par contre, ils ont une sensibilité particulière. Et puis, on les accompagne aussi beaucoup au niveau de la formation pour avoir un regard particulier sur l'élève, sur ses difficultés. Et être aussi en capacité de travailler en groupe avec tous les enseignants du corps de l'État.
J'ai vu aussi que vous faisiez très attention au décrochage scolaire. C'est un petit peu votre spécialité de reprendre en main des enfants qui ont un peu lâché prise.
Oui, tout à fait. Nous adressons à un profil particulier d'enfants qui ont rencontré des difficultés dans le système scolaire classique. Alors, tout type de difficultés, ça va aller des apprentissages ou au comportement ou les deux. Et le but du jeu pour nous, c'est de les accueillir le moins longtemps possible et de leur faire profiter de notre pédagogie et notre regard particulier pour qu'à terme, ils puissent quand même réintégrer le système ordinaire, que ce soit l'école de secteur ou aller dans un collège.
Qu'est-ce qui est vraiment très différent fondamentalement, on va dire, aller entre votre école et une autre école plus classique? Si par exemple je passe une journée avec vous, qu'est-ce qui va me sauter aux yeux?
Alors, ce qui va vous sauter aux yeux, c'est que nous, dans les apprentissages fondamentaux que sont les mathématiques et le français, qui sont situés le matin uniquement, on ne se réfère plus aux classes d'âge administratives, mais seulement aux besoins de l'enfant, c'est-à-dire que un enfant de CE2 peut très bien être accueilli par un enseignant qui va lui faire faire des maths en CE1 et un autre enseignant un peu plus tard qui va lui faire faire du français en CM1 parce qu'il en a les capacités. On a fait exploser les cloisons pour s'adapter particulièrement à des profils un peu particuliers et vraiment limiter en fait le fait que l'enfant soit confronté soit à un programme qui lui est trop facile, qui génère de l'ennui et donc des difficultés comportementales, ou au contraire, le confronter perpétuellement à l'erreur, à l'échec, ce qui fait qu'il s'éloigne à terme du système ordinaire.
Alors là, c'est au directeur vraiment que je m'adressais. Est-ce que c'est facile de sortir du rang est-ce qu'on vous donne la possibilité de le faire au niveau de l'éducation nationale, ou est-ce qu'il faut sans cesse se battre pour dire « mais non, nous on veut faire comme ça et ça marche et on a besoin de pas être nombreux par classe ». Est-ce qu'il y a de la négociation tous les ans ou pas?
Alors c'est quelque chose que l'on défend effectivement tous les ans. On essaye absolument de conserver ces effectifs réduits qui sont la clé de voûte de la réussite, avec aussi une équipe formée et solidaire. Mais c'est sûr qu'on se confronte parfois à des difficultés. Tout simplement, là, depuis quelques années, ils essayent de faire un livret scolaire unique où il y a des remontées au rectorat, des compétences pour les enfants. Sauf que nous, avec ce système que l'on prône, on est vite, très vite en marge de ce système. Donc, faut défendre un peu tout ça de temps en temps. Mais la liberté, il faut la prendre, il faut oser. Parce que avec la population que l'on accueille au quotidien à l'école Saint-Charles, si nous, on ne se donne pas l'occasion de créer quelque chose qui leur convient, ces enfants, à terme, s'éloignent du système scolaire ordinaire.
Pourquoi il n'y a pas plus d'écoles comme la vôtre? C'est que c'est compliqué à mettre en place?
Oui, c'est compliqué. Nous travaillons avec la Fondation d'Auteuil qui nous permet une certaine liberté, une certaine aussi assise financière. Donc ça, c'est aussi très important de le souligner. Après, il faut... j'ai aussi travaillé dans l'enseignement plus traditionnel, entre guillemets. C'est vrai que dès lors que l'on a 30 enfants par classe et qu'on est dans des établissements où on a une quinzaine de classes gérées par un directeur, c'est compliqué de travailler en groupe. Chez nous, l'enseignant de CP travaille à la porte ouverte, et c'est très bien si l'enseignant de CM2 fait. C'est-à-dire que l'enfant, dans son parcours, il faut absolument discuter. Et qu'il pourrait rencontrer s'il passe d'un enseignant à un autre. Donc nous avons harmonisé toutes nos pratiques, la pédagogie, le matériel, les emplois du temps. Donc ça, c'est un vrai travail de groupe, et ce qui rend compliqué ce système à l'extérieur, dans des écoles plus traditionnelles.
Mais ça fait envie quand même, hein. Quand je vous entends, je me dis, waouh, il faudrait des écoles comme ça un peu partout, pour redonner l'envie aux enfants d'aimer l'école, c'est important. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous sur France Bleu ce soir.
Mais de rien.
Bonne fin de soirée à vous. Au revoir.
Au revoir.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
Les pédagogies alternatives, c'est le sujet qu'on a choisi pour vous ce soir sur France Bleu. On se dit tout jusqu'à 22h avec vous qui venez nous parler des solutions que vous avez trouvées, de ce qui a changé dans votre classe, votre école. Est-ce que c'est si facile que ça d'ailleurs de faire autrement dans un système éducatif un petit peu rigide? Nous sommes maintenant en Vendée avec Lucie qui est avec nous. Bonsoir Lucie.
Bonsoir.
Alors vous êtes enseignante, et contrairement à ce qu'on a pu entendre, vous n'êtes pas enseignante avec la pédagogie Montessori ou Freinet ou Steiner ou démocratique, mais vous faites un petit peu à votre sauce, hein, c'est comme ça.
Ben oui, en fait, lorsque j'ai eu mon concours, j'ai été directement dans une classe et j'ai pas forcément eu de formation type. Alors au début, j'ai fait plutôt du traditionnel et je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, ça me plaisait pas, et puis du coup j'ai cherché un peu à droite à gauche. Il me plaisait, et c'est là que j'ai découvert, et du coup que je pioche un peu, justement. Je me contente pas à une seule pédagogie, en fait, parce que tous les enfants sont différents et je trouve que il faut varier.
Alors qu'est-ce que vous allez chercher chez les uns et les autres pour nous donner des exemples?
Alors moi, je suis surtout intéressée par des pédagogies qui mettent l'élève en position d'acteur. C'est ce qu'on appelle les pédagogies actives. Et du coup, on va les faire manipuler, comme avec le matériel Montessori. Ou alors, on va carrément les faire devenir porteurs de projets, comme dans la pédagogie Freinet. Et c'est là où les enfants vont être plus responsables de leur travail et vont plus s'impliquer et puis en garder des traces beaucoup plus pérennes, je trouve.
Est-ce que vous en parlez avec les parents? Est-ce qu'ils savent que vous êtes une institut qui a des méthodes un petit peu différentes? Ou est-ce que vous gardez ça pour vous et vous dites le principal, c'est que les enfants soient bien, qu'ils aient de bons résultats?
Oui, alors je tic-tacte pas trop. Parce que comme je le dis, je prends un petit peu à droite à gauche. Donc je ne dis pas que je fais du Freinet ou que je fais de... Mais ils savent bien que par mon attitude aussi, mon positionnement de vraiment... prendre à cœur l'enfant, de l'écouter, de faire ce qu'il faut pour que ça marche pour lui, et pas forcément pour qu'il y ait des attentes très particulières auprès des parents. Ils le savent, hein. En début de rentrée, j'explique qu'on va fonctionner en plan de travail, qu'il va y avoir des ateliers d'autonomie. Et donc, du coup, je suis peut-être quand même au regard des instituts, des parents, une institut qui ne fait pas comme les autres, mais Mais après, c'est aussi valable dans l'école avec mes autres collègues. Donc, c'est vrai que...
Oui, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous avez justement pu en parler avec vos collègues? Est-ce qu'elles aussi, elles vont piocher un petit peu? Est-ce que finalement, l'école entière se met à d'autres pédagogies alternatives, on va le dire un peu comme ça?
Ben, c'est vrai qu'avec l'école, on parle beaucoup et on a tout aussi à cœur de faire évoluer chaque enfant, en fait, en se rendant compte que chacun est différent. Et donc, du coup, ben, les pédagogies alternatives permettent ça. Ça permet un suivi vraiment individualisé. Et donc, du coup, notre projet d'école, on essaie de le baser là-dessus, avec des axes qui permettent de mettre en place des projets comme des après-midi ou multiniveaux, où on mélange les élèves de différentes classes, et du coup, ça permet de les faire apprendre ensemble, autrement, en coopération, donc par le biais d'outils comme ça.
Alors, je vais dire un gros mot, Lucie, inspecteur, inspection. Aujourd'hui, il y a l'inspecteur qui passe vous voir, est-ce que vous êtes dans les clous quand même par rapport à l'éducation nationale? Est-ce qu'on pourrait vous faire des remontrances? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye plutôt d'encourager des gens comme vous aujourd'hui?
Alors, sur la circonscription de Fontenay-le-Comte, parce que du coup, j'ai été inspectée deux fois en cours de ma carrière, les deux inspecteurs ont été plutôt à donner des conseils en allant vers ça. J'ai même eu un discours qui disait « Mais vous savez, Madame Biraud, on va vers ça, on va vers des nouvelles, alternatives. » Tout, par contre, tout tient à cœur pour eux de suivre au mieux les acquisitions des élèves.
Oui, c'est normal.
C'est pas parce qu'on va faire des alternatives qu'après, il faut faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va quand même... pour rentrer dans les clous, comme vous dites, faire un suivi, faire des bilans, rendre des comptes aussi bien à l'inspection qu'aux parents. Et voilà, montrer que même si on fait des choses un peu originales, c'est dans un but vraiment précis d'amener l'élève vers quelque part, et notamment en regard des programmes officiels.
Vous êtes optimiste alors pour la suite de l'éducation des enfants? On est bien parti.
Je suis optimiste en me rendant compte au fur et à mesure de mes recherches et puis de mes réseaux et de mes contacts qui s'enrichissent, que beaucoup d'enseignants, beaucoup de parents, d'adultes se rendent compte que oui, c'est ça la meilleure façon d'agir avec les élèves, une éducation bienveillante tout du moins qui fait qu'on peut accompagner chaque enfant.
Et ça commence
et après,
tout petit.
Au niveau administratif, pour moi, c'est un frein, mais après, c'est le système français qui est comme ça. On ne va pas non plus lui cracher dessus, même s'il y a des choses à reprocher. Mais ça mérite d'être là. Donc, c'est toujours modifiable. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire.
On peut commencer à n'importe quel âge, partir sur des méthodes comme ça un peu différentes. C'est vraiment que pour les tout petits, ça peut s'adapter à tous les âges?
Non, c'est tous les âges, parce que justement, en fonction des pédagogies, moi je trouve que par exemple, qui suis jeune maman aussi d'un petit garçon de 2 ans, la pédagogie Montessori, c'est super intéressant. Il y a tout le côté vie pratique, notamment à savoir même utiliser son corps, manipuler ses mains, et donc du coup tout ça, va y avoir des ateliers très très concrets. Et donc c'est très intéressant à mettre en place de la maternelle. Après, pour les plus grands, ils sont plus trop dans la découverte de leur corps et de leur sens et de leurs sensations. Donc du coup, là, on va aller plus vers la réflexion avec des débats, des projets interdisciplinaires où ils vont aussi bien travailler le français, les mathématiques, l'histoire géo, la science. Donc ça dépend. Les arts aussi, avec la pédagogie Steiner, ça permet vraiment d'ouvrir vers autre chose et de sortir de cette discipline, c'est bien ou ça c'est pas bien, ou ça c'est mal, ou ça c'est pas bien, et donc vers une vérité pour tout le monde en fait.
J'aurais adoré vous avoir comme maîtresse quand j'étais petite. Vraiment, ça a l'air cool l'école avec vous. Lucie, merci beaucoup d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu, et bravo d'avoir cette curiosité d'aller piocher un petit peu dans d'autres façons d'enseigner et de faire ce joli mélange, parce que visiblement ça marche bien. Bonne fin de soirée à vous, Lucie.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Partagez vos bons conseils. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
Et on est à l'école ce soir sur France Bleu, mais l'école cool hein, quand même, ça c'est important, l'école différente, l'école qui fait pas peur, qui fait pas trop mal, qui au contraire aide à grandir, à évoluer à son rythme. Et on est vraiment ravis de vous écouter nous en parler avec passion. C'est un professeur des écoles qui vient de nous rejoindre depuis la Bretagne, il s'agit de Pierrick. Bonsoir Pierrick.
Bonsoir.
Alors vous utilisez la méthode freinée dans votre classe, c'est juste dans votre classe ou c'est dans toute l'école d'ailleurs?
C'est toute l'école.
Ouais, c'est plus simple hein.
c'est plus simple. C'est vrai que ça nous permet de travailler avec une certaine continuité et c'est appréciable.
C'est-à-dire que vous l'avez décidé tous ensemble à un moment donné. L'école s'est montée en se disant on va monter une école freinée. Comment ça s'est passé?
En fait, oui, pour ce qui est de notre école, ça s'est monté il y a une quarantaine d'années maintenant, hein, avec une opportunité, avec l'administration et une équipe de collègues qui ne sont plus dans l'école depuis longtemps et qui ont décidé de monter une équipe freinée. Ce qui se passe un peu partout en France, hein, on est peu d'équipes, mais chaque équipe a son histoire par des opportunités.
Alors c'est une histoire qui dure quand même, hein, vous dites depuis plus de 40 ans. C'est quoi exactement la méthode freinée?
Alors, on parle de pédagogie freinée.
De pédagogie,
déjà,
pardon.
Parce que c'est quelque chose qui est en mouvement, qui est initié par Célestin Freinet et un certain nombre de personnes autour de lui. On était un mouvement il y a une centaine d'années déjà maintenant. Hein. On n'est pas loin de le mouvement n'est pas loin d'avoir une centaine d'années, qui a su s'actualiser à travers le temps, mais qui repose sur quelques principes pérennes. L'idée qui fait rupture, c'est l'idée d'enfant auteur. C'est-à-dire que de l'idée que les enfants sont à même de produire des choses diverses et variées dans le domaine de l'écrit, dans toutes les disciplines, de cette manière. Et c'est pour nous le point d'appui par l'expression et la création. La création est quelque chose de très important pour nous et dans un cadre coopératif, ce qui nous semble essentiel pour que les enfants puissent évoluer dans un cadre bienveillant mais exigeant. Ça, ça nous semble important aussi.
Mais ça veut dire qu'on suit quand même un programme défini par l'éducation nationale ou est-ce qu'on en sort un petit peu?
Ah, on est dans l'école publique, hein, oui. Délibérément dans l'école publique à appliquer. On est inscrit dans les ce qu'on appelle les instructions officielles. Maintenant, on les aborde à notre façon. C'est vrai que comme il s'agit de coller au plus près des rythmes des enfants et dans au sein d'un groupe, hein, il y a tout un des outils, des techniques qui permettent de personnaliser les apprentissages au maximum.
Alors quand vous dites par exemple, on est beaucoup sur la création, les mathématiques et la création, ça va se passer comment par exemple?
Tout à fait. Nous appelons ça des créations recherche libre mathématiques. Les enfants partent sur un thème qui est souvent présenté au groupe. Donc on pose un premier regard et on est amené à problématiser à partir de leur première création. À les accompagner. Alors là, c'est là que on est amené à les enseignants sont amenés à développer une certaine expertise hein, pour pouvoir cerner avec les enfants, avec le groupe, toujours, ce qui est mathématique dans la proposition que l'enfant va faire et qui va l'amener à faire une création, une œuvre, hein, au final, une fiche de recherche qui sera présentée à la classe. Il y a toujours un aller-retour entre la création d'un enfant ou d'un petit groupe d'enfants et la présentation à l'ensemble du groupe après. Mmh. Il fait que petit à petit, on monte en puissance hein, dans les créations, dans les œuvres des enfants, par le regard critique et bienveillant et constructif que le groupe va poser sur leur création.
Vous, Pierrick, ça fait combien de temps que vous êtes enseignant avec la pédagogie freinée?
Au moins, ça commence à dater. Hein. Ça fait pas moins d'une trentaine d'années maintenant.
Ah oui.
Qui arrive en fin de carrière.
Ça veut dire qu'on est ambassadeur un petit peu, qu'on va essayer de porter la bonne nouvelle aux collègues qui n'ont pas forcément pris cette voie, les anciens copains de promo, on leur dit tiens, et regarde un petit peu ce qui se fait. Est-ce qu'on est, j'ai envie de dire, ambassadeur quelque part?
On est militant hein, de notre pédagogie. Hein. Notre idée, c'est de la diffuser le plus largement possible au sein de l'éducation nationale. Maintenant, c'est important d'assumer ce qu'on fait. Je trouve que la liberté pédagogique est une chose essentielle. Et ça repose sur une philosophie, sur donc une approche de l'enfant, de l'éducation, qui mérite d'être assumée. Donc parce que après c'est beaucoup d'auto et de co-formation. Hein, on fait régulièrement des stages sur nos temps de vacances. On se retrouve entre collègues pour avancer sur nos pratiques. Et mais c'est pour ça que ça ne s'impose pas. Hein, après donc. C'est vrai qu'il y a une vision politique derrière, hein, une vision d'émancipation de l'enfant sur des bases coopératives, une certaine vision de l'homme hein, que Freinet et les pionniers du mouvement ont porté très tôt. C'est pour nous essentiel et on ne peut pas forcer les gens à travailler en pédagogie Freinet parce que
oui, il faut adhérer.
C'est un système en même temps, hein, c'est quelque chose qui fait système, qui toute toutes les activités, toutes les disciplines, notre attitude, la façon de concevoir le groupe, la façon de concevoir aussi les apprentissages et notre place dans le groupe en tant qu'enseignant, comment on accompagne les apprentissages au plus près des enfants, avec une visée bien sûr, hein. Ça c'est quelque chose qui se travaille dans le cadre de nos formations, de nos échanges. Moi, j'ai la chance d'être dans une équipe, donc on a des échanges quotidiens. Ça, c'est la richesse d'une équipe Freinet, quoi.
Et alors, Pierrick, vous me dites que ça fait 30 ans à peu près que vous enseignez avec la pédagogie Freinet. Il y a 30 ans, on parlait pas vraiment beaucoup de tout ça. Aujourd'hui, on en fait une émission entière avec plein de pédagogie et plein de méthodes différentes. Vous trouvez que c'est une bonne chose qu'il y ait plein de pédagogie alternative qui s'ouvre aujourd'hui? Ça vous fait plaisir? Ou au contraire, vous dites, oh là là, il y en a peut-être un peu beaucoup, attention?
Sûr que c'est une vieille histoire. Hein, l'éducation nouvelle, hein, ça remonte au début du siècle dernier. Il y avait eu une véritable effervescence au début du siècle dernier, dans l'entre-deux-guerres notamment. Disons que là, il y a un retour, oui, alors avec des formes variées, hein, dont on se positionne
Vous trouvez ça encourageant pour justement le futur et l'éducation des enfants?
Oui, je pense que il y a une demande, hein, je pense, qui émerge là de nouveau, avec malgré tout, quand même, quelques petites différences. C'est vrai que nous, l'idée d'enfant auteur, c'est quelque chose qui est essentiel, quand même, qui fait vraiment rupture avec l'ensemble des pédagogies actives, parce que pédagogie active, c'est quelque chose qui diffuse dans l'éducation nationale depuis un certain nombre d'années, depuis une trentaine d'années déjà. Mmh. Donc, maintenant, c'est vrai qu'on perçoit des frémissements. Moi, je vois que je fais partie d'un groupe de travail au niveau départemental. On voit bien qu'il y a il y a un certain nombre de jeunes collègues qui arrivent et qui s'installent et qui restent avec nous, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Pour nous, c'est des signes encourageants, oui.
Merci beaucoup, Pierrick, d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu, d'être venu nous parler de la pédagogie Freinet. Et on salue tous vos collègues, hein, parce qu'ils sont nombreux, qui utilisent la même pédagogie que vous depuis longtemps ou peut-être depuis plus récemment, allez savoir. Merci encore, Pierrick.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et c'est une émission consacrée à l'école. Ce soir, une autre façon de voir et d'envisager l'enseignement à l'école avec d'autres méthodes, des courants qui existent déjà, d'autres naissants. Et c'est à Nantes que nous sommes maintenant avec Faustine. Bonsoir Faustine. Allô Faustine.
Oui.
Bonsoir. Vous envisagez l'ouverture d'une école pédagogique. Alors sur quelle méthode, sur quelle pédagogie vous partez?
On part sur une pédagogie qui s'appelle, enfin qui est plutôt une philosophie, qui s'appelle le modèle Sudbury. C'est un modèle qui a été créé il y a une cinquantaine d'années aux États-Unis et qui s'inspire en fait d'une pédagogie libre, totalement libre, dans le sens où il n'y a pas de cours, pas de classe, pas d'emploi du temps.
Pas de cours? Comment ça?
Pas de cours.
Mais qu'est-ce qu'on fait à l'école alors?
On s'amuse.
Ah, c'est bien ça, j'adore moi. Mais en vrai, concrètement, qu'est-ce qu'on apprend alors s'il n'y a pas de cours?
En fait, concrètement, on part du principe qu'à partir du moment où on a envie, où on a besoin d'apprendre quelque chose, on le fait, l'enthousiasme est là, l'envie est là et on apprend beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, l'idée, c'est de se trouver dans un lieu, dans une structure qui pourrait ressembler, par exemple, à une maison dans laquelle il y aurait des pièces avec différentes activités possibles, une salle de repos, une salle de lecture, un atelier menuiserie avec des outils divers et variés, un espace vert, bien sûr, puisque les jeux en extérieur sont extrêmement importants. Et tout ça avec un mélange d'âge, d'une cinquantaine de jeunes et d'enfants, donc de 4 à 20 ans, où tout ce petit monde va créer finalement à ses occupations en fonction des projets de chacun.
Mais alors qui nous apprend à lire, à écrire, l'histoire, la géographie?
Eh bien, personne. on apprend, en fait, on apprend parce que on a besoin de savoir lire. Et on apprend à lire, en fait. La plupart des enfants qui apprennent à lire apprennent en fait à lire tout seul. C'est ce qui se passe dans l'instruction en famille, notamment, qui est très développée en Angleterre. Les enfants apprennent à lire tout seul. Alors, bien sûr, on n'apprend pas forcément à lire à 4 ans. parce que c'est pas forcément là qu'est la nécessité, c'est pas forcément à 4 ans. Or, aujourd'hui, on nous apprend à lire à 4 ans, mais c'est pas forcément là que c'est le plus pertinent. Mais ça vient, il y a forcément un besoin à un moment et une envie d'apprendre à lire.
Alors, votre école qui va se monter, alors j'espère bientôt, Faustine, je sais pas dans le timing, mais c'est-à-dire que vous allez suivre un... Il n'y a pas de programme, finalement. Vous partez un petit peu à l'aventure. Mais personne ne surveille ça. Comment ça se passe?
Si, en fait, on a des contraintes liées à l'éducation nationale que nous respecterons bien entendu. Il y a un socle commun de compétences et de connaissances à respecter.
Oui, finalement, ils doivent savoir certaines choses, peu importe comment ils les apprennent.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il y a un logiciel qui est développé par un logiciel open source qui est développé par toutes ces écoles démocratiques qui s'inspirent de ce modèle-là, dans lequel on rentre des données qui correspondent au socle commun de compétences et qui peuvent être vérifiées par les inspecteurs voilà, à n'importe quel moment.
Comment on prépare l'ouverture d'une école? On va distribuer des infos, on fait des réunions, comment ça se passe pour vous?
Au niveau de l'équipe ou au niveau du public?
Ah bah les deux. Déjà l'équipe, là j'imagine que c'est des gens que vous connaissez, des gens de confiance. Mais comment on fait pour dire aux parents, tenez, venez nous rejoindre dans notre projet, c'est bien pour votre enfant?
Alors en fait, on organise des réunions avec des parents, avec des enfants. On en a organisé une la semaine dernière. Il y avait beaucoup de jeunes d'une quinzaine, entre 15 et 17 ans, qui se reconnaissent plus du tout dans le modèle actuel et qui sont complètement démotivés à l'idée de passer le bac. Et qui nous rejoignent, qui nous posent des questions, qui ont envie de contribuer à ce projet-là, à l'ouverture. On explique les différents principes, les principes clés en fait du modèle. On écoute les questionnements, on rassure, on n'est pas là pour embrigader qui que ce soit, mais simplement on donne notre vision à nous de l'apprentissage, de l'enthousiasme, du vivre ensemble, puisque finalement il s'agit vraiment là d'un vivre ensemble au quotidien et comment on apprend à vivre ensemble et à être un citoyen du monde avec une approche démocratique, un processus démocratique qui est vraiment développé à l'intérieur de cette école.
Et si tout se passe bien, l'ouverture c'est pour quand alors?
Dans l'idéal en septembre. Aujourd'hui on est presque en juin, comme on n'a pas encore trouvé de local et on a besoin de à peu près 2 mois avant l'ouverture pour la déclaration à la préfecture et un peu.
Ce sera peut-être pas cette rentrée alors.
Ce sera peut-être pas cette rentrée, néanmoins l'école peut ouvrir à n'importe quel moment de l'année. Et dès qu'on a des locaux et qu'on est prêt, on ouvrira, peu importe le moment, dans l'idéal, d'ici la fin de l'année. Voilà.
Ça sera un joli cadeau, ça, pour terminer et embrayer sur une nouvelle année. Il y a du monde d'intéressés, il y a des enfants, des parents, des enseignants aussi qui enseignent, si tant est qu'il y ait des enseignants.
Alors, il n'y a pas d'enseignants, parce qu'on considère que chacun peut amener un savoir différent et chacun est acteur de la transmission aux autres, de ce qu'il a envie de transmettre et de ce que les autres sont prêts à recevoir.
La maison est ouverte
comme
en fait.
Enfant, voilà, adulte comme enfant, finalement, tout le monde est porteur de compétences, de talents, de envie de transmettre quelque chose. On fera appel, bien sûr, à des personnes ressources. On est en train de constituer un annuaire de personnes ressources en fonction des besoins des jeunes. S'il y en a un qui a besoin d'apprendre le violon et qu'il est arrivé au bout tout seul, nous, on fera intervenir quelqu'un qui est violoniste ou qui aimerait bien transmettre sa passion. On le fera intervenir dans l'école. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait des échanges avec l'extérieur aussi.
C'est joli, c'est un joli projet tout ça. Hein. Ça peut. Parfois, je suis sûre qu'il y a des gens qui disent « mais t'es folle, ça va pas ». Non, il n'y a pas des gens qui vous prennent pour des doudingues un petit peu?
Non, pas trop dans l'entourage, mais bon, après, on peut être confronté à ça, oui.
Mais plus
ça
on
peut
en...
arriver, c'est déjà arrivé.
Plus on en parle, plus on ouvre aussi les portes, plus on est curieux de découvrir autre chose. C'était aussi le but de cette émission, hein.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Faustine, d'avoir été avec nous sur France Bleu et bonne continuation pour l'ouverture de cette école. Donc, a priori, fin de l'année pour vous et on vous le souhaite de tout cœur.
Merci beaucoup.
Bonne soirée, au revoir.
Merci, au revoir.